j'ai donné un... Certains diraient un drôle de titre à la méditation de ce soir. En tout cas, c'est, ça va être le centre de notre pensée, de notre méditation. Et si c'était notre dernière heure? Si vous voulez, vous pouvez mettre un S, mais pas trop d'S quand même. Parce que l'idée, c'est vraiment de dire, et si c'était vraiment notre... Si on n'avait pas l'occasion de voir le soleil de demain se lever, quoi. Luc chapitre 16, chapitre 12, pardonnez-moi. Luc chapitre 12, versets 16 à 20, il y a une histoire comme ça d'un homme qui n'aura pas le temps de voir le soleil se lever alors qu'il avait plein de projets dans son esprit. Luc chapitre 12, verset 16, il est écrit: Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, qu'est-ce que je peux bien faire? Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers et puis j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai, sous-entendu, enfin, à mon âme, « Ah, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, et ça pour plusieurs années. » Repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. La retraite avant l'heure, et avec un super compte en banque. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, tu seras mort. Et tu devras être face à moi. Cette nuit même. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Alors, il faut lire un peu le contexte de cette parabole. L'idée de Jésus n'était pas seulement d'avertir la conscience de chacun de l'imminence de sa mort, même si effectivement ça va être c'est quand même le contexte. Mais c'est vrai que si vous lisez, vous allez vous apercevoir que le contexte de cette histoire, c'est que Jésus est en train de rappeler à chacun l'importance de ne pas focaliser toute notre attention, toute notre énergie pour les biens matériels aux dépens du salut de notre âme. Il parlait de cela pour condamner cette cupidité qu'il y a dans la nature humaine, dans cet attachement aux choses matérielles. Et c'est vrai. C'est vrai que cet homme, il avait dû travailler beaucoup. Il était investi dans le travail, dans le travail. Et puis là, il s'aperçoit que le fruit des années de travail, ça multiplie. Et là, il est devant un pactole, une super recette, une récolte géniale. Alors là, il a encore d'autres problèmes. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça maintenant? C'est compliqué de gérer des millions d'euros. Hein, vous savez ce que c'est, quoi. Hein, on dit, ah, mais je fais quoi après? J'investis où? Je fais quoi avec ça? C'est lourd hein, comme contrainte. Alors il se prévoit, ouais, on va construire ça, on va faire construire ça, et puis ceci, et puis une fois que je vais faire ce plan-là, on va embaucher, et après je pourrais me dire, waouh, c'est bon, tu vas enfin pouvoir te reposer. Enfin, plus de soucis. Je vais pouvoir manger, boire, plus de contraintes, je vais me lever quand je veux, je vais enfin me reposer, je vais enfin pouvoir dire à mon âme, repose-toi. Mais si cet homme se disait enfin, ah, enfin, repose-toi, mon âme, c'est qu'il n'avait pas trouvé le repos de son âme. Et c'est ça la problématique de cet homme. C'est ça la problématique. Parce que c'est normal. C'est tout à fait normal de travailler, C'est tout à fait normal de s'inquiéter des affaires de la vie. C'est tout à fait normal de se poser des questions. C'est tout à fait normal de se projeter dans l'avenir. Comme cet homme se disait, j'ai une récolte pour plusieurs années. Et c'est tout à fait normal de se projeter dans l'avenir. Et il le faut. Mais jamais aux dépens de notre âme. Cet homme-là avait travaillé et investi à tel point qu'effectivement, il lui manquait l'essentiel, le repos de son âme. Et c'est une question de priorité. Et ce soir, je voudrais vraiment focaliser sur le côté insensé de cet homme. Car Jésus ne dit pas qu'il est insensé parce qu'il a réfléchi aux choses de manière intelligente, absolument pas. Au contraire, et j'espère que vous aurez tous les mêmes problèmes que lui, à une telle surabondance que vous dites « Oh, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je vous le souhaite. Il vaut mieux avoir ces soucis-là que les soucis de la misère.
Hein ? Non, investir dans l'église, c'est pas compliqué. Si on gagne au loto, on investit dans l'église.
Ah, d'accord. Merci.
Voilà.
Mais, son côté insensé à cet homme, c'est de s'être préoccupé continuellement des choses matérielles aux dépens du salut de son âme. Et Dieu va te dire, mais tu projettes tout ça, mais c'est chouette, c'est bien. Mais tu es complètement fou. Parce que peut-être que ce soir même, d'ailleurs ce n'est pas une probabilité quand Dieu parle, ce soir même tu vas mourir. Tu auras saigné, tu seras investi. Mais je te le dis, ce soir même, je te redemanderai ton âme. Une expression pour dire qu'il devra rendre compte à Dieu. Fini les calculs, fini les business plans, fini les investissements, fini les projets de construction. Ce sera pour quelqu'un d'autre, son fils ou un gestionnaire, qu'importe. Tout ça, ce sera fini pour lui. Il sera là, dans la nuit même, alors même qu'il est en train de se coucher, de se mettre dans son petit lit, de dire « Ah ouais, demain, il faudra que je prenne rendez-vous avec un tel. Ah ouais, bon, je verrai ça demain. Et je dors. » Et ce gars-là, il se couche en se projetant dans l'avenir, mais en manquant l'éternité. N'est-ce pas là un paradoxe, se projeter dans l'avenir et manquer l'éternité. La Bible nous invite tant de fois à considérer notre avenir éternel. Plusieurs fois, elle nous est amenée à réfléchir sur la mort, mais pas de manière philosophique, pas seulement sur la mort des autres, mais sur nous-mêmes. Le monde lui-même nous invite, alors c'est plutôt là comme on disait dans ces courants philosophiques, nous invite à vivre la vie comme si c'était le dernier jour. Certains vont vous dire que pour bien vivre l'instant présent, il faut vivre comme s'il n'y aurait pas de lendemain. On peut le comprendre. Sous-entendu, il faut jouir. Si tu crois que tu vas mourir demain, alors tu vas profiter de la vie à fond. Bon, il y a des aspects pervers à cette philosophie.
Oui, ça s'appelle l'hédonisme.
Dans une église que je fréquentais quand à ma conversion, il y avait lorsque vous, comme ici vous voyez cette phrase, un seul chemin Jésus, il y avait sur la gauche du prédicateur un grand panneau. Et il y avait une référence, Amos 4:12. Si vous lisez à la maison, Amos 4:12, il est écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'est impressionnant, hein, au début, vous venez pour la première fois à l'église, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il est grosse lettre, bien austère, sur un panneau bien carré, avec juste un surlignage pour bien mettre en valeur. Oh, prépare-toi, mais c'est vrai. Le monde est insensé. Parce qu'il vit comme s'il était de toute éternité, tout en sachant que chaque jour il y a des morts, mais la mort c'est pour le prochain, c'est jamais pour lui. Et quand on lui dit « Est-ce que vous êtes sauvé ?»« je sais pas moi !» Comment ça vous savez pas? Vous croyez? Non, je crois pas. Mais vous savez que si vous mourrez, que s'il y a un Dieu, vous allez en enfer. Il y a des chances, oui, avec tout ce que j'ai fait. Ne nous laissons pas focaliser par le travail, la santé, les calendriers, les projets, les enfants, la retraite, etc. Et c'est vrai que tout cela n'est pas mal en soi, comprenons bien. Mais ça ne doit pas être une priorité. Notre priorité, notre première question à laquelle nous devrions répondre, c'est que se passe-t-il si ce soir je meurs? Quel bilan est-ce que je pourrais faire devant Dieu de ma vie? Si je meurs ce soir et que je suis face à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas être neutre à cette question-là, parce que nous savons où nous en sommes. Il faut préparer le départ de notre âme, il faut le préparer. Et ce soir, il va y avoir des milliers de gens qui vont mourir, des milliers. Et parmi ces milliers, qui est vraiment au courant qu'il va vraiment mourir? Peut-être que je vais faire partie de ce millier, peut-être vous. Pour les uns, je ne me fais pas trop de mourons, pour d'autres, je m'inquiète un peu plus. Chaque jour, des gens meurent. Mais est-ce qu'ils étaient préparés? Est-ce qu'ils étaient prêts? Est-ce qu'ils sont conscients qu'au moment où leur cœur s'arrête de battre, où leur cerveau ne fonctionne plus, l'âme, elle, continue de vivre? Oh, moi, je ne crois pas à tout ça, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est un fait. Oh, mais non, 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 faut être croyant pour ça. Mais non, c'est pas une question de croyance. Il y a même des expériences scientifiques qui montrent qu'il y a une réalité de l'âme. Entre autres. Comment se préparer? Comment se préparer à ce rendez-vous? Et je ne veux pas là encore. Je ne veux pas me projeter en me disant, tiens, on a encore une semaine pour se préparer, mais comment se préparer maintenant, là, ce soir? Si l'on meurt dans une heure. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Je vous donne les références pour ceux qui me prennent des notes. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Paul faisait une prière qu'il adressait à Dieu, mais une prière qu'il adressait aussi aux hommes. Et cette prière, il l'a formulée comme ça. Nous vous en supplions. Oh, tu pries les hommes maintenant? Oui, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Paul était tellement conscient de l'urgence, de la nécessité de régler maintenant notre conflit, notre distance avec Dieu, qu'il était prêt à dire, mais je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est pas une question là de peut-être, d'option, mais nous vous en supplions. Cet homme était prêt à vouloir mais faire le maximum, à infléchir son cœur et à tout faire pour que le cœur des gens s'infléchisse dans le premier et seul but de se réconcilier avec Dieu. Trop souvent, Nous tendons les mains, nous donnons l'occasion, nous invitons les gens, mais tournez-vous vers le Seigneur, ne tardez pas, on est là avec nos invitations, on ne veut pas brusquer. Mais Paul, il est au-delà de bien sûr qu'il ne faut pas brusquer, mais son cœur était à la supplication. Si elle pouvait pleurer, leur dire, mais arrêtez, stop! Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Se réconcilier parce que il y a pourtant de personnes besoin de retrouver une relation apaisée avec Dieu. Les gens en veulent à Dieu. Ah, est-ce que j'ai souffert? Si Dieu existait. Ah oui, c'est à moi de me réconcilier avec tout ce que j'ai supporté. Mais c'est bien connaître, c'est justement le témoignage d'une méconnaissance de Dieu. Parce que si vous aviez pris le temps de chercher à apaiser votre relation vis-à-vis de Dieu, il aurait pu vous consoler, vous soulager et même vous guérir. Qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai » ? C'est Jésus. C'est lui qui a la main tendue. C'est lui qui veut guérir. C'est lui qui a pris nos maladies. C'est lui qui est mort à notre place. C'est lui qui a accepté d'être traité comme une balure à notre place. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Bien sûr, la vie est faite de souffrance. Mais Dieu n'est pas la cause de votre souffrance. Et si vous rapprochez, et si vous acceptez d'apaiser vos cris et vos révoltes à l'égard de Dieu, alors vous pourriez le laisser agir et vous consoler et cicatriser les plaies de votre cœur et même de votre corps. Soyez réconciliés avec Dieu. Vous me demandez d'être réconcilié avec quelqu'un qui n'existe pas ? Soyez réconciliés, arrêtez de lutter avec vous-même. Oh, moi je crois pas, Dieu n'existe pas. Là, c'est un simple discours. Mais la pensée de l'éternité est bien dans leur cœur, même à ces gens-là. Même ceux qui vous disent avec toute arrogance, oui mais Dieu ça n'existe pas, blablabla. Laissez-les parler. Et après vous leur dites, mais qu'est-ce qu'il y a là dans le vide dans votre cœur ? Vous savez bien qu'il y a quelque chose. Ah oui, mais c'est peut-être que... Soyez réconciliés, apaisez ces pensées. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et vous êtes un homme, vous êtes une femme, oui, alors vous avez cette pensée dans votre cœur. Et même si vous construisez des raisonnements contre Dieu, Dieu vous appelle encore à vous réconcilier, à apaiser vos raisonnements, à apaiser vos colères, à apaiser vos clameurs. Les gens sont tellement pris là, comme saisis, sortant les griffes. Nous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais bien, mais Dieu ne s'intéresse pas à moi. J'ai pas de valeur, je suis rien du tout. Oh, ça m'est déjà arrivé de prier, mais ça n'a pas marché. Je suis trop occupé. Dieu est trop occupé, pardonnez-moi. Non, c'est faux. Dieu n'est pas trop occupé. Et vous avez de la valeur à ses yeux. Vous avez de la valeur. Vous avez tellement de la valeur. Alors, ce n'est pas du voyeurisme que Dieu fait, mais Dieu connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Dieu connaît votre nom avant même qu'il soit sorti de la bouche de votre père et de votre mère, parce qu'il connaissait déjà l'orientation qui se profilait dans le cœur de vos parents. Dieu vous connaît dans les moments de solitude. Dieu vous connaît lorsque vous avez l'impression que vous êtes rejeté et incompris de tous. Dieu est là, Dieu est témoin. Dieu connaît le contexte de votre vie, Dieu connaît vos pensées, Dieu connaît même vos arrière-pensées. Dieu comprend et sait et connaît la motivation de vos moindres faits et gestes, même ces regards qu'on lance comme ça vite fait, à droite, à gauche, où on a l'impression que personne ne nous verra. Dieu sait. Actes chapitre 17, verset 27 nous dit que Dieu est près de chacun d'entre nous. Par contre, effectivement, et c'est la délicatesse de Dieu, il veut que nous le trouvions comme en tâtonnant. Non pas qu'il se tient caché, mais il veut qu'il y ait ce rapport de réconciliation, de tâtonnement, de reconquête, de confiance relationnelle. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. D'autres pensent pouvoir se passer de lui. Oh, j'ai pas besoin de Dieu, moi. Ah bon. Les mêmes qui vous disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu courent après les voyants, les magnétiseurs, la gloire des hommes, le succès, sans réaliser que, après toutes ces choses après lesquelles ils courent, c'est le vide de Dieu qui est dans leur cœur. Comme nous le disions tout à l'heure, quels que soient les raisonnements de la distance que l'homme a établie avec Dieu, quel que soit l'argument, chacune de ces personnes dans quelques heures va mourir. parmi les milliers qui vont mourir encore cette nuit et qui peut-être se retrouveraient dans un de ces arguments qui ne tient pas debout. Que ça leur plaise ou pas, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas, ils seront devant Dieu. Comment se préparer à rencontrer Dieu? Même si vous avez peu de temps, même si vous n'avez pas l'opportunité de lire toute la Bible, il y a quand même des choses qui peuvent se faire instinctivement. Et quand je dis instinctivement, c'est que il y a des choses qui sont comme ancrées dans notre intelligence simple, logique. Si je vous avais dit, ou si vous préparez, ou si vous êtes déjà préparé une fois à rencontrer quelqu'un de très influent, je ne sais pas, un président, enfin un chef d'entreprise pour qui vous attendez à une embauche, vous allez vous préparer. Vous allez bien vous laver. Les gars, ils vont bien se raser, comme Élie. On ne va pas choisir le t-shirt où il y a la grosse tache, non? On est d'accord? On fait attention, je suis bien coiffé, c'est bon. On évite de sentir mauvais, on fait pas un jogging avant d'y aller, non. On essaye d'être en forme. On évite d'être là, sorti du lit. Ah, salut, excusez-moi, vous avez oublié. C'est vous le directeur? Non. On fait même attention à sa manière de se présenter. C'est pas une question qu'on est hypocrite, pas du tout, mais... Mais c'est cela que je vous dis instinctivement, normalement. Bon, voilà, on est conscient qu'on n'est pas là pour se vendre, on n'est pas là pour mentir, mais on se prépare, quoi. Tout simplement, on se prépare. Même si ce soir, vous allez mourir, intérieurement, vous pouvez vous préparer à rencontrer Dieu. Ce n'est pas la couleur de vos manteaux que Dieu regardera, ni la longueur de votre barbe, ni l'odeur de votre peau. Mais c'est bien l'état du cœur que Dieu va regarder. Et il ne faut pas 150 ans pour confesser nos péchés. On n'a pas besoin d'une année de catéchisme pour pouvoir être réellement sincère devant Dieu et lui demander pardon pour nos fautes. Il n'est pas là question de faire une formule magique qui ferait que hop, on serait blanchi. Non, ce que Dieu attend de nous, c'est une démarche sincère, profonde, vraie, authentique. Et il est question là de se dire, mais si je meurs dans quelques heures, est-ce que j'aurais fait cette démarche sincère et vraie? Parce que c'est ça que Dieu va regarder. C'est cette démarche-là de foi. Père éternel, pardon! Je sais que j'ai fauté, je sais que j'ai mal fait, je sais que j'ai fait du mal à des personnes autour de moi, je sais que j'étais peut-être voleur, ravisseur, je sais que je suis dur avec les autres, mais pardon! Pardon pour toutes les fois où je t'ai méprisé, pardon pour toutes les fois où j'étais peut-être même moqué de toi. Pardon quand j'ai pas fait les efforts que j'aurais dû faire. Pardon quand j'ai joué au chat la souris avec toi. Pardon quand j'étais hypocrite avec l'Église. Nous savons très bien les choses qui ont besoin d'être nettoyées, pas en surface, mais intérieurement. Il y a eu un homme comme ça, à la croix, avec Jésus. Et lui savait que dans quelques heures, il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il était en train de souffrir le martyr. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Cet homme s'est préparé en quelques minutes parce que lui-même reconnaît que sur cette croix, sur ce martyr, il mérite le mal qu'il a commis aux autres. Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est normal qu'on souffre comme ça. Le mal qu'on a fait aux autres, c'est normal qu'on nous l'inflige. Et cette prise de conscience est suffisante pour laver notre âme. Et Jésus lui dira, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Jésus ne lui a pas dit, ah désolé pour toi, il va te manquer des heures précieuses. Non, dès que quelqu'un confesse son péché, il blanchit son âme, il le purifie, il lui pardonne. Ne dites pas, oui mais ce serait hypocrite de ma part. Ce serait hypocrite de ma part, là, ce soir, de demander pardon au Seigneur, et parce que peut-être que je pourrais mourir ce soir, et je veux pas être hypocrite, moi je veux être vrai. Ça c'est de l'orgueil, il n'est pas question d'hypocrisie. On m'a raconté une histoire récemment
d'un jeune homme qui avait quitté son père et qui, pendant des années, ne voulait plus de contact avec son père. Et pour des raisons diverses, il s'était fait une mauvaise image de son père. Il le critiquait, il lui parlait mal. Enfin, quand les gens parlaient de son père, il en parlait mal. Et les années ont passé, et le père n'a jamais cherché à se justifier. Le père disait toujours, un jour il comprendra, un jour il comprendra. Et les choses s'envenimaient, les tensions étaient de plus en plus difficiles. Il y avait encore une personne qui faisait un peu office de tampon, la grand-mère. Les circonstances ont fait que ce fils, qui ne supportait pas son père, qui ne voulait plus le voir, qui ne voulait pas lui parler, a été amené à se retrouver dans la voiture qui l'emmenait vers la maison du père. Le père ne savait pas. Et le fils, tout le long de la route, était de plus en plus saisi d'angoisse, de crainte. Parce que pourtant, pendant ces années où il l'insultait, où il le traitait de tous les noms, il y avait un conflit intérieur. Il prenait pour argent comptant tout ce qu'on disait sur son père, mais il y avait toujours quand même au fond de son cœur un petit doute. À tel point qu'il ne voulait même pas descendre de la voiture. Je lui dis, mais quand je vais rencontrer mon père, mais lui-même il ne voudra plus me voir. Lui-même réalisait qu'à cause de toutes les pensées qu'il s'était faites, il pensait lui-même avoir accumulé une quantité de colère qui aurait pu être dans le cœur du père, mais pas du tout. Et lorsque ces deux hommes se sont vus face à face, ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Toute cette incompréhension qu'il avait dans le cœur du fils a volé en éclats. Le père a pleuré de voir son fils de retour. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Il n'est pas question d'hypocrisie. Mais trop souvent, nous nous faisons de fausses idées sur Dieu. Nous accumulons des raisonnements, des résistances. Et nous croyons que c'est Dieu qui nous résiste, alors que nous sommes en train de constituer des murailles, des logiques infranchissables, des remparts, des boucliers contre Dieu. Et nous disons, c'est Dieu qui ne veut pas de nous. On a trop souffert, il ne veut pas de nous, mais c'est faux. Le Père a le cœur et les bras ouverts. Il suffit juste un moment de baisser tout ça, de dire oui. Si tu existes, oui. Je veux pouvoir retrouver cette relation apaisée avec toi. Je veux être réconcilié avec toi. Je veux pouvoir te parler librement, simplement. Je veux pas passer l'éternité loin de toi parce que je serais resté dans mon orgueil, dans ma réticence, dans mes faux raisonnements. Comment se préparer à rencontrer Dieu ? Là aussi, cela ne nécessite pas des heures de méditation ni de réflexion, mais en accordant le pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est Jésus qui le dit. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Et ça remue d'entendre ces paroles-là. Parce que quand on a du mal à pardonner à quelqu'un, c'est que ça fait aussi longtemps qu'on cultive quelque chose contre cette personne.
Oui, vous avez peut-être été victime. D'accord.
Mais ce n'est pas en gardant le venin en vous que vous allez être soigné du mal qu'il commet. Pour être guéri d'un poison, il faut évacuer le poison. Cela s'appelle le pardon. Franchement, si vous mourrez dans quelques heures, à quoi bon garder encore ce poison dans votre cœur ? Nous l'avons dit tout à l'heure. Notre corps, lui, reste là. C'est l'âme qui continue de vivre. Et il n'y aura aucun poison qui ira dans le ciel. Lâchez le poison maintenant. Videz-le. L'antidote de ce poison, c'est le pardon. Et là encore, il n'est pas question d'hypocrisie. Il est juste question de prendre conscience que si vous mourrez dans quelques heures, alors il est important de, maintenant dans votre cœur, dans votre fort intérieur, de commencer ce processus de pardon et dire « Seigneur, aide-moi à pardonner telle personne. Donne-moi maintenant d'accorder le pardon à cette personne. Si je n'ai pas le temps de lui dire « Au moins toi, Dieu, tu sais que mon cœur veut être libéré de ce manque de pardon. » Oui, si vous avez quelques heures supplémentaires, quelques heures de sursis, alors oui, je vous encourage vivement à régler vos problèmes avec vos égos. S'il y a encore un pardon à accorder à quelqu'un et que vous l'avez dit devant Dieu, c'est une excellente chose. Mais si Dieu vous permet de voir le soleil demain, prenez le courage d'écrire, de téléphoner, de textoter, quel que soit le moyen, de dire à cette personne « Pardon, je veux te dire que je te pardonne. Je veux que tu saches que mon cœur ne veut plus souffrir du mal que tu m'as fait. Je veux plus te tenir rigueur et vivre dans cette crispation, dans cette blessure constante. De la même manière que si vous avez volé, Dieu nous parle de la restitution. C'est facile de dire « Oh, pardon Seigneur, j'ai volé la belle télé, hein, mais moi bon, je la garde, on ne sait jamais. Hein. Bon, maintenant qu'elle est là, c'est… » Non, non, non. Si vous mourrez ce soir, vous n'aurez pas le temps de la rendre. Et si vous avez encore la journée pour le faire, faites-le. La restitution, mettre les choses à plat. Comment nous préparer à rencontrer Dieu dans les quelques heures? J'ai tourné la phrase un peu autrement. Comment nous préparer à bien mourir? Mais pour bien mourir, il faut offrir sa vie. Parce que nul ne sera forcé de rentrer au paradis. Personne. Personne. Des gens seront conduits en enfer complètement aveuglés. Ils auront été manipulés, ils vont être trompés, ils ont été séduits. Et alors ils seront arrivés en enfer et disent « Oh mais moi, je n'avais pas réalisé que !» Et ça, c'est tout le système du diable qui est menteur, qui est séducteur, qui est trompeur. Ah oui! Mais personne n'arrivera au paradis « Oh, ben, je ne savais pas que le paradis existait !» Ah, je suis vraiment content, hein, comme le loto. Ah, bah, j'ai gagné, j'ai mon numéro. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon numéro. Regardez, j'ai le numéro, je suis sauvé. Oh, le pot. Non, ça n'existe pas, ça. Quand ce brigand était à la croix et qu'il a pris conscience que la peine qu'il subissait était normale, légitime, parce qu'il avait lui-même commis autant d'horreurs. Il a formulé « Seigneur, ne m'oublie pas lorsque tu viendras dans ton règne. » Quelque part, c'est comme si « Prends ma vie. Je suis là. Je vais être avec toi. » Il ne s'est pas seulement contenté de lui, oh, bah, c'est normal. Hein, moi, avec tout ce qu'on a fait comme pourriture, c'est normal. Bon, Au revoir, Jésus, j'espère que tu auras plus de, moins de souffrance que nous. Non. À un moment, il a réalisé qu'il voulait que sa vie soit avec Jésus. Il y a un court proverbe verset 20, chapitre 23, verset 26, où il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Vous vous rendez compte que Dieu s'adresse à chaque individu en lui disant « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Dieu ne vous volera rien, jamais. Mais de la même manière, dans la même logique, dans le même cœur que Paul qui pouvait vous dire « Nous vous en supplions, mais soyez réconciliés !» Mais je vous en supplie, mais faites tact, allez vers Dieu, retrouvez nos relations. Dieu est là. Il regarde dans notre cœur, dans nos vies, et il dit, s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi. Je ne peux pas te forcer, je ne peux pas te menacer. Je ne vais pas chercher à te faire peur. Mais donne-moi ton cœur. Répondez. Répondez à Dieu en lui disant « Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Prends tout. » Alors, bien sûr, on pourrait se dire « C'est facile aussi, hein ? Parce que si on meurt dans quelques heures, bah oui, maintenant, je peux tout donner, ça ne me coûte plus rien. » Mais ce n'est pas une question d'hypocrisie, c'est une question de salut. Dieu ne vous jugera jamais. Si vous cherchez maintenant, tout de suite, à être réconcilié, à être sauvé maintenant, c'est l'autre qui est traité d'insensé. C'est l'autre qui était là dans ses projections futures, croyant qu'il va trouver le repos dans ses choses matérielles, en continuant son management. Ça, c'est de la folie. Ce qui est de la sagesse, c'est de se réconcilier avec Dieu, de mettre de l'ordre dans notre vie, de nous préparer moralement, spirituellement à l'encontre de notre Dieu. Trop souvent, les gens oublient. Pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être idiote ou simpliste, mais certains oublient que Dieu est Dieu. Il est Dieu. On n'est pas en train de parler d'une philosophie, d'une religion. On n'est pas en train de parler d'un chef d'entreprise ni d'un président. On est en train de parler du Créateur du ciel et de la terre. Et c'est incroyable comme on a une faculté, nous les humains. Quand on s'habitue à une chose, on la banalise. On finit par la considérer comme avec autant d'importance qu'une chaise ou une table ou un grain de poussière. Mais Dieu est Dieu. Beaucoup viennent vers Dieu pour avoir, pour recevoir. Certains même, dans leur manière de parler, on a même l'impression que Dieu, c'est un peu, ça devrait être leur serviteur. Celui qui devrait faire le larbin de leurs tâches qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire. Ah ben si t'étais Dieu, tu pourrais faire ceci et cela quand même, hein ? Mais vous parlez à qui ? Dieu est Dieu. Et avant d'être le sauveur de votre âme, il est le Seigneur de votre âme. D'ailleurs, réfléchissez un instant. C'est parce que Dieu est Seigneur, tout-puissant, qu'il est le sauveur. Parce que s'il n'était pas ce Seigneur, s'il n'était pas souverain, s'il n'était pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'il n'était pas Dieu, il ne pourrait pas vous sauver. Apprenons à considérer Dieu dans sa seigneurie, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son honneur, dans sa gloire. Manquer cette vision de Dieu, c'est manquer la vision du salut. Parce que considérer comme Dieu, comme une sorte de sous-fifre, qui devra là nous épauler pour nous élever, ça n'existe pas, ce n'est pas à Dieu que vous parlez ainsi. Car Dieu n'est pas cela. Dieu n'est pas en bas pour vous élever, il est Dieu haut et il vous élève à lui. Dans l'épître de Pierre, Pierre a une formule. Il parlera toujours de Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur. Seigneur et Sauveur après. Reconnaissez Dieu comme étant le Seigneur. Il est Dieu. Je voudrais illustrer la chose par un fait historique. Au temps du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait des roitelets. Qu'est-ce que les roitelets ? Ce sont des petits rois. En fait, c'était des seigneurs qui régnaient sur une parcelle de territoire, on va dire, sur des régions. Et puis, chaque roitelet de l'époque cherchait effectivement à grandir son royaume. Alors, il y avait de nombreuses guerres, roitelet contre roitelet. Et puis, il y avait des forts roitelets et puis des roitelets un peu plus faibles. Et certains étaient conscients qu'ils étaient faibles. Certains étaient conscients que celui qui leur avait menacé, celui qui les menaçait de venir les conquérir, était plus fort qu'eux. Que faire ? Dilemme. Mener la bagarre ? Mener la guerre ? C'était beaucoup de sang, un carnage, peut-être même le suicide. Alors, certains roitelets allaient voir un autre roitelet pour s'associer. Il y avait une pratique. C'est que le roitelet qui demandait de l'aide, le secours à l'autre roi pour être sauvé, et il lui prêtait allégeance. Ça veut dire qu'il se soumettait à lui. Et vous avez sûrement vu ces situations où le roi plie le genou contre terre devant, et voilà, il devenait un vassal. Il finissait par accepter l'autorité de ce roitelet qui était capable de le prendre sous sa défense, sous son bras, de s'associer à lui. Et alors, ce roitelet, plus fort, lui promettait le salut, la protection. Apprenons à avoir la même humilité. Car il y en a un qui s'est juré de votre destruction et votre mort. Et celui-ci, nous ne pouvons pas le combattre. Déjà, nous luttons de notre vivant. Déjà, notre âme est en guerre, en péril, en déstabilisation constante. Et même les plus forts d'entre nous prennent trop de coups pour réaliser qu'ils sont suffisamment forts. Mais nous avons un Seigneur qui, lui, nous a dit « Donne-moi ton cœur. Viens auprès de moi, toi qui es fatigué et déchargé. » Lui qui nous invite à devenir ses enfants. Mais nous devons avoir la même humilité à fléchir notre genou devant le Père et lui dire « Seigneur, sois mon roi, sois mon Seigneur, je ferai tout ce que tu me dis. J'arrêterai de chercher à manœuvrer ma vie comme si j'en étais maître. Fais de moi la femme que tu veux que je devienne. J'en ai marre de me bagarrer avec moi-même. J'en ai marre de me bagarrer et de me prendre toujours les mêmes murs. » Surtout que si nous revenons ce soir à notre méditation, s'il ne vous reste plus que quelques heures à vivre, votre allégeance à Jésus est un impératif vital. Ne soyons pas insensés. Que lorsque le Saint-Esprit est en train de sonder notre cœur, il ne puisse pas avoir les mêmes propos que ce qu'il a dit à cet homme insensé que tu es. Mais pourquoi est-ce que tu résistes encore ? Ce soir même, je vais te redemander ton âme. Et toi, tu discutes encore. Et tu te bloques encore. Et tu fermes encore les choses. Ouvre-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Que nous n'ayons pas le regret que les choses secondaires aient pris le devant sur les choses essentielles. Que
Nous ne négligeons pas un si grand salut, comme le dit la parole de Dieu. Ne négligeons pas un si grand salut. Et que nous puissions préparer au travers de ces quelques minutes qui nous rassemblent encore, que nous puissions préparer nos cœurs au travers du pardon, de la repentance, de l'offrande de notre vie à Dieu, de la reconnaissance de sa souveraineté sur nos âmes. Amen.